Dans le panier de Lisa, Lisa Giraud-Taylor.
Bonjour, bonjour, et j'espère que vous avez passé un bon week-end pascal. Vous avez trouvé des nœuds neufs, des petits lapins, des poules, des petites choses sympathiques, de la friture, oui, des trucs en chocolat. Oui, alors nous, on a deux, trois petits œufs là qui restent. Bon, en fait, il y a quand même des choses qui ont été un peu mangées, hein, voilà. Alors, on a fouillé, on n'a peut-être pas tout trouvé tous les nœuds neufs. Ah bah disons que je crois qu'il nous en manque deux, mais on les a toujours pas trouvés. Donc bah écoutez, ça servira aux bestioles du jardin, hein. Quoi qu'il faut pas. Le chocolat c'est très mauvais pour les animaux, donc on va éviter. Il va falloir qu'on les trouve, les œufs. Alors, lundi de Pâques, tranquillou, hein. Oui, vous êtes là, tranquille, nous on va parler de livres. Posez-vous, prenez un café, un thé, un chocolat, c'est bientôt l'heure de manger. Il reste sûrement quelque chose du repas d'hier, Pascal. Donc, on va faire chill, on va parler de livres qu'on a aimés, enfin en tous les cas moi, que j'ai eu au mois de mars et que j'ai bien aimé, et on va parler de musique. Alors attention, toutes les chansons ont été choisies par le lutin. Je ne suis responsable de rien. Je n'ai pas fait la programmation musicale. Si c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas ma faute. Il a essayé de coller au titre des livres. Quand j'ai vu les fautes. Alors, c'est du très bon. Hein. Attention, il y a très, 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 très bonnes choses. Hein. Attention, il n'y a pas de... Mais, comment vous dire, ça a été compliqué. Hein. Il a fait du brainstorming. Hein. Ça se voit. Il s'est pas embêté. Hein. Il a collé au texte. Allez. On commence tout de suite en musique, vous allez voir, ça va coller au texte tout de suite. On commence par, je connaissais même pas la chanson. Bah lui, oui, bon bref, c'est déjà pas mal. Pascal Obispo, Le long du fleuve, voilà. Et puis, vous allez voir, il y a le mot fleuve dans le titre. Ah bah je vous dis, c'est pas du tout cassé la tête. Bon, Ah bah écoutez, c'était Pascal Obispo avec avec le long du fleuve. Ah non mais moi je ne m'en remets pas. Hein. Je dois vous avouer que quelquefois il me fait beaucoup rire. Hein. C'est sûr. Enfin peut-être pas tout le temps quand même, mais voilà, là il m'a fait rire. Alors on va parler d'un livre vraiment magnifique et qui fait réfléchir a posteriori quand on l'a lu. Ça s'appelle Pas même le bruit d'un fleuve, donc, de Hélène Dorion, qui est canadienne, québécoise. Alors, c'est un roman qui est vraiment empreint de poésie, de mélancolie, de réflexion sur la vie, sur la condition humaine aussi, sur l'amour, sur la vie, sur celui d'une vie aussi, d'ailleurs. Alors, on est avec Anna, dont la maman, Simone, avec sa maman, Simone, sa meilleure amie, Juliette, sa grand-mère, Eva, et puis aussi des garçons, Adrien, Antoine, un père qui est un peu honteux. Et Hélène Dorion, en fait, elle dresse des portraits assez fluides, profondément humains, mais aussi assez meurtris, et ce, tout le long du fleuve Saint-Laurent. Alors, lorsque la mère de Anna meurt, qui est une mère assez discrète, assez secrète, assez triste, assez distante aussi, Anna n'en sait pas plus sur sa mère, alors elle va naviguer entre ses souvenirs flous et quelques bribes qu'elle a récupérées d'informations de ci, de là, sur cette mère qui est vraiment présente physiquement, mais absente mentalement. Et puis, en vidant l'appartement de sa maman, elle trouve des cahiers, et en fait, c'est des journaux intimes de sa mère, et là, tout va changer, parce qu'en fait, Simone a eu une vie intense avant son mariage avec le père de Anna, donc avec Adrien, et elle a aimé passionnément Antoine, qui était un marin un peu plus âgé qu'elle, qui était fan de Dante, et le récit, c'est très très court comme livre, mais ça oscille entre 1908, 1914 et une catastrophe maritime de l'Empire of Ireland qui a coulé. Oui, bien avant le Titanic. Enfin, en tous les cas, vers le Titanic, mais qui a fait... après le Titanic, mais qui a fait autant, si ce n'est peut-être plus de morts, d'après ce que... Enfin, c'est pas encore bien établi. Enfin, bon, bref. 1949 et l'époque où Anna trouve ses affaires. Alors, l'écrivaine joue avec les lignes temporelles et laisse, en fait, le lecteur ressentir un moment propre à l'histoire familiale de Anna, mais qui peut avoir des répercussions dans la vôtre. Elle lie les destins entre eux et elle va montrer la redondance dans cette famille qui est fait sur les du destin sur les femmes de cette famille qui vont systématiquement perdre l'homme qu'elles aiment pour un facsimilé, on va dire, qui ne se montre jamais à la hauteur et dont elles ont du mal à cohabiter, entre les cas, accepter que ça ne soit pas ça. Alors, elle comble les vides, Anna, un peu comme elle peut, les zones d'ombre, et également, elle explique, enfin, en tous les cas, Hélène Dorion explique aussi, et ce qui est prouvé aussi par certaines études, c'est que les sentiments, il y a des sentiments dont on hérite, et qu'il faut absolument s'en défaire pour ne pas reproduire le schéma ad nauseam, parce que en fait on peut hériter des blocages ou des ressentis, des sentiments, etc., d'une lignée, pas forcément de votre mère ou votre grand-mère, mais peut-être que de quelqu'un plus ancien. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a ça, vous avez peur de ça, vous aimez ça, vous avez ça qui est reproduit, et quelquefois et c'est ce qu'elle explique, quand on tire un fil de la généalogie, on peut remonter et se dire tiens, ah, c'est étrange, il y a des similitudes entre les deux, là, c'est étrange. Et moi, faisant la généalogie, ce livre m'a touchée d'autant plus parce qu'effectivement, quand on remonte ces lignées, on peut s'apercevoir de choses qui perdurent sur des décennies et des siècles, etc. C'est un très beau roman entre fleuve, poésie, les arts, puisqu'on parle aussi pas mal d'art, des sentiments, de l'amitié profonde, de l'amour profond ou de l'amour, on va dire, imaginaire, en tous les cas rêvé. Et Hélène Dorion nous donne un très beau livre sur le voyage, le voyage intérieur ou le voyage tout court qui ondule sur le fleuve ou le long de ce fleuve et ondule un peu comme la vie. Donc vraiment, c'est le titre, pas même le bruit d'un fleuve, c'est vraiment très très beau. D'ailleurs, d'où ce qui arrive à Antoine, donc on comprend pourquoi. Franchement, c'est un très très joli livre qui m'a été recommandé, et je ne connaissais pas du tout cette écrivaine qui pourtant au programme, je crois, du bac, pour un de ses poèmes, je crois, français. Mais qui a un très 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 joli plume, et je vous dis, en très peu de pages, elle arrive à vous faire ressentir et à faire réfléchir derrière. Et franchement, c'est vraiment un livre qui ouvre le dialogue avec d'autres lecteurs. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce livre-là. Donc ça s'appelle « Pas même le bruit d'un fleuve » de Hélène Dorion. Allez, petite pause musicale, choix du lutin, Louise Attaque, « Je t'emmène au vent ». Non mais vous allez voir pourquoi. Ah bah oui, il y a le mot « attaque » dans le titre du livre. Non mais je vous dis qu'il a fait simple, hein. Il a fait très très simple, trop simple.
Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle.
Ah bah, c'est artificiel aussi, hein, ton choix. Bon, bref. On va parler de L'attaque du Calcutta, Darjeeling, de Abir Mukherjee. Oui, attaque, Louise attaque. Ah bah, écoutez, je vous dis, ça, il s'est pas foulé. Hein. Alors, nous sommes avec un homme qui s'appelle Sam, qui a survécu aux tranchées de la Première Guerre mondiale, qui a perdu sa jeune femme de la grippe espagnole dans la foulée, et qui traîne autant de problèmes psychologiques que d'addiction à la morphine, voire de l'opium, suite à des blessures de guerre. Et quand un ancien camarade, enfin officier, et qui est devenu très influent en Inde, lui propose de rejoindre le Bengale et Calcutta. Il va sauter sur l'occasion, en fait, un peu pour repartir d'un autre pied, en fait, d'une autre vie. Et dès son arrivée, on retrouve un homme blanc dans une ruelle, mort. Alors cette ville qui est grouillante, qui est écrasée soit par la mousson, soit par la chaleur étouffante et moite, qui fait que Sam, Widam, en fait... se colle au plancher, un peu en mode « Ouh là là, je vais pas survivre ici », et l'enquête peine quelquefois à décoller aussi, peut-être par l'abrutissement de la chaleur. Alors, il est rapidement associé à un jeune sergent indien qui s'appelle Satyendra Banerjee. Et Sat, comme tout le monde l'appelle, est assez malin, observateur, adaptable, parce qu'en fait, comme il l'explique lui-même, il est trop indien pour les Britanniques et trop flic et donc trop colon pour son peuple à lui. Voilà, alors il a une position très ambiguë, hein, on dirait le cul entre deux chaises, qui fait que c'est un personnage très intéressant pour notamment avoir sa vision sur les exactions commises par les Anglais dans cette colonie britannique, l'empire colonial. Alors c'est un roman policier qui d'une autre trempe. C'est un policier tranquillou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surenchère, de sang, de violence, de sexe, de gore comme on a l'habitude de voir maintenant. Là, on est dans une enquête qui avance à un rythme assez lent. On est dans la vie de Calcutta qui est pourtant grouillante en 1919. On découvre au fil de l'eau la vie quotidienne, la politique coloniale, le racisme primaire, les attitudes assez hautaines des colons britanniques sur les indigènes, comme ils les appellent, sans compter bien sûr sur l'histoire de ce pays très large, très diversifié, qui lui-même est très codifié et très qui peut avoir du racisme intercommunauté à l'intérieur de son pays lui-même. Selon d'où vous venez, de quelle contrée, région. Alors, il faut dire que l'enquête en elle-même, le meurtre, n'est pas banal, c'est un homme blanc, riche, puissant, violemment tué à la sortie d'un bordel. Voilà, oups. Alors, évidemment, vous vous doutez bien que le titre a quelque chose à voir, puisqu'il va avoir une attaque de train, complètement improbable. On se demande vraiment pourquoi au moment où ça se passe. Il y a quelqu'un qui passe sur les radars, il y a l'armée coloniale au milieu qui s'en mêle. Et le tout, sous la chaleur moite ou un déluge de flotte par brassée de 12, on en obtient un bon roman qui, ma foi, est assez divertissant et sympathique. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire, notamment en m'intéressant à la vie non seulement de Widham, mais aussi de Sat, et puis de voir leur positionnement. Ils ont une espèce de pas de deux, tous les deux, assez intéressant, avec des soubresauts qui font que l'enquête avance à son petit pas. Et puis, évidemment, Sam rencontre une femme qui n'est ni indienne ni britannique, qui est métisse. Ça pose aussi d'autres questions sur comment se positionner quand on est les deux à la fois. Bref, moi, j'ai passé un très bon moment en compagnie de tous ces gens. Alors, c'est une série, hein. C'est une saga, je ne sais pas si je vais continuer, enfin je vais continuer en tous les cas, je ne sais pas quand je continuerai, mais je suis sûre que j'y retournerai parce que j'ai trouvé que c'était très agréable à lire et qu'en plus il y avait un intérêt à découvrir beaucoup de choses. Voilà, il y a un très très joli lien intéressant entre les deux policiers, avec des idées, des idéaux qui s'échangent comme ça, de temps en temps, entre deux révélations. Voilà, attention, ne vous attendez pas à un truc tonitruant, hein, je vous dis, ça va tout doux. Voilà, mais c'est très agréable. On se pose un après-midi, on lit tranquillo, on se prend pas la tête, tout va bien. Voilà, donc ça c'était l'attaque du Calcutta Darjeeling de Abir Mukherjee. Écoutez, tout est en poche, hein, donc c'est facile à trouver. Allez, petite pause musicale avec MC Solar, nouveau western. Ah bah oui, tu m'étonnes. On va dans le Montana. Ah non, mais l'autre, je vous dis, il y a... Non, mais il n'a pas réfléchi, c'est tout. Il s'est dit, ouais, ça va être facile. La prochaine fois, c'est moi qui fais la playlist. Hein.
Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est looké à la Lucky Luke, propre comme un archiduc. Oncle Sam me doute, Hollywood nous berne, Hollywood berne, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Mais gare à Gary Cooper, le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il saute des époques et les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chip, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une douche cheveux se part sous, des types se baignent pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. L'esthète sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien le mal, le Kulik et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moins dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le freine. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Parfois, la vie ressemble à une balle perdue. Dans le système moderne se noie l'individu. Pour rester lucide, il s'abreuvait de brandy. Désormais, on brandit téléchité baby. Ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours à contre-jour, c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau western? Yeah. Le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Moderne. Le nouveau western. Moderne. Le nouveau western. Sitting Bull. Cauchy. Calamity
Ah bah oui, alors évidemment, vous allez me dire, MC Solar, c'est du grand. Oui, c'est un poète, hein, le gars, donc oui. Mais j'avais pensé à autre chose sur, comme chanson. Je lui ai dit, Rantan, mais il dit, ah oui, je dis, bah oui. Bon bref, on va parler de Buffalo Blues de Keith McCafferty. Alors, attention, c'est un roman qui m'a été recommandé. En me disant, je pense que tu vas beaucoup aimer, etc. Oui, simplement, c'est un numéro 5, il faut quand même que je le précise. Hein, c'est le cinquième opus d'un duo d'enquêteurs. Alors, j'ai pas lu les quatre premiers. Ça me semble pas être très préjudiciable, d'après ce que j'en ai entendu après parler, sur les interactions. Peut-être un peu sur les interactions entre cet enquêteur privé et la shérif du coin. Mais bon, voilà, c'est une nouvelle enquête. Moi, ça m'a pas perturbé plus que ça, donc écoutez, on va en parler comme ça. Alors, lui, c'est un Sean, il s'appelle, c'est un enquêteur privé, guide de pêche à la mouche. Ah oui, il pêche à la mouche. Slash aquarelliste. Ah oui, non, il fait tout. Voilà. Et elle, elle s'appelle Martha et c'est la shérif du coin. Voilà. Alors, nous sommes dans des étendues, évidemment, vous imaginez bien. Montana, machin, bidule, chouette. Alors, le roman va lancer ces deux, entre guillemets, enquêteurs sur les causes de la mort de plusieurs bisons qui se sont précipités du haut d'une falaise, d'où le terme en anglais, enfin le titre en anglais, Buffalo Blues Jump, qui est en fait, en gros, hein, c'est ça, c'est le saut des bisons, comme ça, qui est aussi une technique de chasse ancestrale, c'est-à-dire on les pousse à tomber de la falaise, comme ça on les récupère en bas quick. Bon, alors le souci quand on arrive, ils arrivent sur place, c'est que bah, parmi la scène de ces morts, hein, qui en gros, bah oui, ils ont sauté de la falaise, on trouve un Indien mort, clairement pas tombé dans le troupeau, puisqu'il a été transpercé d'une flèche. Oups, boulette. Bon, donc McCafferty, en fait, il offre une espèce de double enquête à ce moment-là, c'est-à-dire un entre le bison et l'Indien, et l'autre entre une mission qui est confiée à Sean par une femme de la tribu Cree qui décide de récupérer son ancien amour ou un amour perdu, si vous voulez. Et donc, les deux affaires, évidemment, elles sont liées, vous vous doutez bien, mais bah lui, il ne le sait pas au début. Donc, ça va le conduire à un enchaînement de gros problèmes, problèmes en tout genre, hein, tous les étages, hein, carrément. Alors, comme je ne connaissais pas les antécédents, je ne peux pas juger si cet opus est plus intéressant ou plus, on va dire, rythmé que les autres. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait un très bon équilibre entre l'enquête, les à côté de l'enquête, les descriptions de la nature. Et alors, par contre, là, ici, entend le gars sur cette espèce de... Oui, parce que c'est hostile, hein, comme état. C'est rude déjà, mais c'est hostile parce qu'il peut faire très, 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 très froid. Voilà. Alors, c'est très immersif par moment parce qu'on a l'impression, vraiment, moi, j'ai eu l'impression de humer, de toucher, carrément d'y être à un moment donné, au milieu de ces grands espaces, et aussi par ces morceaux de pêche et ce côté immensité absolue. Alors j'ai bien aimé le personnage de Sean, qui n'hésite pas à douter, à se questionner, que ce soit sur son environnement professionnel ou personnel. En plus, il a quelquefois un côté un peu décalé, qui m'a vraiment plu. Moi, j'ai bien aimé ce personnage. Alors, moins Martha, mais bon, du coup, visiblement, d'après ce que j'ai compris, les quatre premiers opus, c'est plutôt elle. Donc, pour une fois que c'est lui, c'est pas mal. Et puis, Keith McCafferty est un pre-chevalier de la sauvegarde des bisons. Ce sont des légendes, hein, ces bestioles, hein, dans les grandes plaines. C'est des véritables bijoux des temps anciens. Et surtout, c'est des grands défenseurs de l'écosystème. C'est-à-dire, ils sont très utiles à la nature. D'où l'absurdité que dénonce l'auteur des décideurs de l'État, que ce soit gouvernementaux, enfin fédéraux ou autres, sur leur élimination, parce qu'il y a une loi qui dit que s'ils sortent du parc naturel, de leur réserve, ben en gros, quick. Bon, alors, excusez-moi, hein, pauvre bête. Bon, et en plus, McCafferty explique que bah, la condition des natives, donc des Indiens, des natives, sur le fait qu'ils doivent lutter sans cesse pour conserver un lopin de terre, un bout de terre qu'ils avaient à la base, hein, c'était à eux, ou récupérer des terres sacrées. Voilà, donc il y a cette espèce de lutte constante pour préserver ce qui était acquis avant, et ce que l'homme blanc, on va dire, les immigrants et les immigrés qui sont arrivés par bateau ont décidé, excusez-moi, on était peut-être en premier, ah ben non, toi, on va te tuer, on va t'expulser, ça sera mieux. Voilà. Donc, la plupart des natifs vivent cantonnés dans des espèces de réserves, hein, il faut quand même le savoir, donc ils luttent sans cesse pour récupérer des morceaux de terre sacrés à eux. Mais voilà, donc c'est vraiment un très bon opus qui mêle tout ça, grandeur, immersion totale, rite, tradition, et ses enquêtes, et la nature, et le fait de comment cohabiter avec la nature. Alors je ne sais pas si je lirai le premier tome et si je continuerai à lire les les autres avant d'arriver au cinquième. Mais moi, j'ai bien aimé l'écriture et surtout le fait qu'il ait mêlé toutes ces thématiques qu'il aborde. Et franchement, c'est une belle écriture, c'est très agréable à lire, c'est très immersif. Après, est-ce que je lirai les 4 premiers maintenant que j'ai découvert les personnages? Je n'en sais rien, mais en tous les cas, je le note dans ma petite tête à moi en me disant que si... si je viens à trouver le premier opus en livre de poche à un prix en bouquinerie ou dans une boîte à livres, je le prendrai et puis je retesterai un jour. Allez, petite pause musicale. Alors personnellement, pour parler du livre qui suit, je m'attendais à une autre chanson. Ah bah, il y avait tout dans le titre, hein. Alors là, franchement, je suis déçue. Ah, je vous dirai la chanson que j'aurais choisie, moi. Bon, il a choisi une chanson qui parle du Sud. Bon, on est d'accord, c'est Michel Sardou, je viens du Sud. Moi, j'aurais pensé à autre chose quand même. Hein. Tu t'es pas foulé quand même, hein, lutin. Non, tu t'es pas... Non, mais non, si. Non, mais tu peux remuer la tête que quand... en faisant ça. Non, de... non, non. Mon lapin, tu ne t'es pas foulé. Ah, hein, lapin, Pâques. Ah, hein, il fallait que je la case, celle-là.
J'ai dans le cœur quelque part de la mélancolie, mélange de sang barbare et de vin d'Italie, un mariage à la campagne tiré par deux chevaux, un sentier dans la montagne pour aller puiser l'eau. J'ai au fond de ma mémoire des lumières d'autrefois qu'une très vieille femme en noir illuminait pour moi. Une maison tout en pierre que la mer a rongée. Au-dessus d'un cimetière où les croix sont penchées. Je viens du Sud et par tous les chemins j'y reviens. J'ai dans la voix certains soirs quelque chose qui crie. Des discours interminables après le déjeuner. Je viens du Sud et par tous les chemins j'y reviens. J'ai quelque part dans le cœur de la mélancolie l'envie de remettre à l'heure les horloges de ma vie. Un sentier dans la montagne quand j'aurai besoin d'eau. Un jardin dans la campagne pour mes jours de repos. Une maison tout en pierre de la mer à ronger. Au-dessus d'un cimetière où mon père est couché. Je viens du Sud et par tous les chemins j'y reviens. Et par tous les chemins j'y reviens.
Comment peut-on passer à côté quand on a un titre comme Planète sans visa de Jean Malaquais qui se passe à Marseille sur Planète Mars de Hayam? Comment t'as fait pour louper ça? Oh non, moi je vous dis, il est mauvais ce lutin, il est mauvais. Voilà. T'auras pas de neuf en chocolat si je les trouve. Si je les trouve. Alors évidemment, j'ai lu Planète sans visa de Jean Malaquais qui nous entraîne à Marseille en 1942. Quand je pense le nombre de chansons qu'il y avait sur ça, Marseille, Canebière et tout. Non, mais ça lui est même pas venu à la tête. Oh là là. Bref, on est donc en 42, on est encore sous contrôle du gouvernement de Pétain et Laval, puisque c'est encore la zone libre, hein, avant le 11 novembre 1942, et donc la prise de la... Enfin, on va dire la mise sous contrôle de la ville entre les Italiens de Mussolini et les nazis. Alors, évidemment, hein, je connais l'histoire de Marseille sur le bout des droits, hein, oui, plus de 2600 ans, bah écoutez, je l'ai appris par intraveineuse, et c'est aussi ma période préférée, vous le savez, en histoire, donc je ne pouvais que lire ce roman. Alors, il faut savoir que Marseille, à cette époque-là, et dès le début, bien avant la guerre, mais en tous les cas dans les années, fin des années 30 et évidemment début de la guerre, Marseille a été un gros point de chute de tous ceux qui voulaient fuir. Les persécutions, lutter contre la barbarie, vivre tranquillement parce qu'ils pensaient qu'ils allaient être tranquilles, ailleurs que sous les lois pétainistes de la zone occupée. Et Jean Malaquais, en fait, il évoque pléthore de personnages locaux, comme échappé en fait d'un roman provençal. Moi, j'avais l'impression d'être dans un roman de Pagnol, mais en mode histoire un peu sombre. Il y a de la gouaille, il y a des petits et des gros larcins, il y a des filles de joie, il y a des mafiosos, il y a des résistants, il y a les collabos, et puis par-dessus tout, il y a le rationnement qui arrive par-dessus, et bien sûr, pour chapeauter tout, la mafia locale, et bien sûr, la police locale. Ah, super. Voilà. Et tout ça fait qu'on s'aperçoit assez vite, parce que Malaquais, il invente des personnages qui ont vraiment existé, mais il leur donne un autre nom, évidemment, des avatars. On s'aperçoit très vite que l'être humain, en fait, va nous montrer sa grandeur, sa splendeur et sa décadence, en fait, en gros. Vous allez voir des opportunistes, des policiers qui aident, des louvoyants, vas-y que je te retourne ta veste toutes les 5 minutes, des indiques qui sont particulièrement des enfoirés, imbuvables, on va dire, pour être plus correct, des fonctionnaires réglos, d'autres pas du tout et très carriéristes, qui vont écraser les plus faibles pour récupérer un peu plus de pouvoir. Vous avez les résistants locaux, les intermittents de la lutte, ceux qui disent « Oh ben non, moi je... Non, ça va. Oh, c'est trop dangereux, j'y vais pas. Oh ben finalement, non, je vais y aller. » Voilà. Oh ben, il y a les intermittents tout le temps, et pas de spectacle, hein, ceux qui savent pas où ils mettent leurs fesses. Les intellectuels, vous avez les communistes qui fuient, vous avez les juifs qui fuient, vous avez les exilés qui fuient. Enfin, tout le monde se retrouve dans cette faune qui est vraiment la faune, en plus, qui va se remettre dans ce quartier du Panier, Vieux-Port, Panier, où vous avez tout le monde. Vous avez la faune locale, vous avez la faune extra-locale, ceux qui veulent fuir, ceux qui veulent pas subir, ceux qui veulent lutter, ceux qui veulent s'échapper, puisqu'il y a beaucoup de bateaux qui vont partir de Marseille, notamment pour les États-Unis ou pour l'Afrique du Nord, dans un premier temps, ou sur certaines îles, pour pouvoir partir, pour pouvoir fuir cette avancée des nazis. Et tout ça, Malaquais le décrit très bien. Il décrit la traque, il décrit les conditions de vie, parce qu'en plus, lui, il était apatride, juif et marxiste. Ça fait beaucoup pour un seul homme dans cette période-là, quand même. Hein. Voilà, donc il a ce côté un peu... il expose ce qu'il connaît, ce qu'il a connu. Alors, c'est un peu une pièce de théâtre. C'est pas une pièce de théâtre, mais ça fait un peu pièce de théâtre parfois, parce qu'il y a beaucoup de dialogues, ça rentre, ça sort, ça passe, ça vient, ça revient, ça repart. C'est vraiment une très belle idée qu'il a eue de créer notamment un avatar pour lui, mais de s'y tenir, c'est-à-dire qu'il a fait graviter beaucoup de gens qui étaient à Marseille à ce moment-là, Variant Frais, André Gide, etc. Et bien sûr, il met en avant deux choses importantes qui étaient à l'époque à Marseille importantes pour les gens qui y étaient. et qui ont été malheureusement sur l'autre versant, c'est-à-dire le premier de bon côté qui était l'American Rescue Committee qui essayait de faire partir les gens par des bateaux en leur donnant des visas, en délivrant de la nourriture, en les aidant. Et l'autre, malheureusement, le mauvais côté de l'histoire, c'est le camp des Milles qui est aujourd'hui un mémorial, qui est un musée, un mémorial sur la déportation et les camps de transit du sud-est que j'ai visité quand j'étais au lycée et qui était à l'époque brut de décroffrage, hein, mais vraiment brut, il n'y avait aucun parcours initiatif, c'était encore empli d'herbes un peu de partout. C'était assez brut pour des lycéens, parce qu'il y avait les témoignages sur les murs et dans les murs de ces personnes qui étaient internées et qu'on savait qu'ils allaient être déportés, et on sait où ils ont été et la plupart ne sont pas revenus. Et aussi, il évoque ce musée. Alors, il n'évoque pas là parce que le musée est beaucoup plus vieux. Enfin, plus récent, on va dire. Mais si vous allez au camp des Milles maintenant, où c'est un musée, vraiment, c'est un mémorial sur la déportation des camps de transit du Sud-Est, il y a aussi un musée qui se trouve au pied du Fort Saint-Jean à Marseille, qui s'appelle le musée de la déportation. Et franchement, c'est important de le voir après peut-être avoir lu ce livre, si vous ne connaissez pas cette période-là. Je sais qu'on connaît beaucoup l'histoire du fait qu'ils ont dynamité le quartier du Panier pour faire sortir les gens quand ils sont arrivés à Marseille, les nazis. Mais bon, il y a autre chose qui se passe dans ce texte-là. Et moi, j'ai bien aimé ce texte. Alors, c'est une écriture particulière, hein, c'est une écriture d'entre-deux-guerres. Voilà. Mais j'aime bien. Voilà, mais je voulais le préciser parce qu'il y a peut-être des gens qui aiment cette période et qui se disent « Tiens, Marseille, je connais pas trop. » Eh ben allez-y, Jean Malaquais, Planète sans visa. Écoutez, on fait pas de pause, on va juste parler des livres rapidement que je vais lire au mois d'avril. Et après, ben, on finira comme d'hab avec notre petite, comment dire, notre petite musique, voilà. C'est moi qui ai choisi parce que... Non, c'est moi qui choisis. Est-ce que c'est moi qui choisis? Parce que je suis pas sûre, là. Est-ce que tu me laisses la main pour la dernière? Est-ce que tu me laisses la main pour la dernière? Est-ce que j'ai le droit de mettre la dernière chanson? C'est moi. Non, parce que je viens de voir ce que tu avais prévu, je veux pas. Non. C'est moi qui ai choisi. Alors, je vais lui dire discrètement. je vais écrire en même temps que je vous parle, parce que sinon, ça va être un peu difficile. Alors, au mois d'avril, pour ne rien vous cacher, il y a quelques livres que j'avais vraiment envie de lire, notamment deux sorties qui sont arrivées récemment. Le premier, c'est le dernier Bernard Schlink, que moi je lis tous les Schlink, hein, donc c'est comme ça, je suis fan, qui s'appelle « Ceux qui restent ». Alors, on est avec Martin qui a 76 ans, qui apprend qu'il y a quelques mois à vivre et il va décider de remettre sa vie en ordre avant de mourir. Donc, il va parler avec sa femme, avec son fils, et il veut savoir qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui va être important pour eux une fois qu'il ne sera plus là, et comment profiter d'être ensemble quand lui, en fait, il prépare ce qui va arriver après, l'échéance qui est butoir, qui est dans chaque tête. Voilà, alors c'est du Bernard Schlink, hein, et moi j'aime beaucoup, donc écoutez, il n'y a pas de problème. Autre livre que je vais lire, et alors là, on ne s'y attendait pas, c'est le tome 11 du département V, puisque Jussi Haller Olsen avait dit qu'il est clôturé avec 7 mètres carrés, qui était le dernier tome, théoriquement, des aventures du département V, donc le 10e. Et bah, petite surprise, il a accepté que deux journalistes et auteurs danoises, Lynn Holm et Steen Bolder, reprennent avec lui, à 6 mains, le département V, donc le titre du livre s'appelle « Les morts ne chantent pas ». Alors, on retrouve Karl Mock, qui a quitté le département V pour prendre sa retraite, mais un crime va se rappeler à lui, évidemment. Hein. Y a un enregistrement audio d'une voix qui est agressée, un silence, et cette vieille affaire, sur un drame conjugal, hein, visiblement, va revenir sur le devant de la scène, car la bande sonore qu'on retrouve ne laisse aucun doute, c'est bien un meurtre. Voilà, donc Karl va réhabiliter, enfin relancer le département V, qui végétait un tout petit peu, et va se mettre dans une optique de résoudre l'affaire qui va le mener à une prestigieuse école réputée pour son cœur de jeune garçon. à la fin des années 80, puisque ça se passe à ce moment-là. Alors, autre livre, c'est une pavasse hein, de presque 800 pages qui s'appelle Vine Street de Dominic Nolan. On est en la Londres en 1935 et on a un enquêteur qui arrive à la brigade des mœurs et des nightclubs de la police de Westminster. Donc c'est un peu quartier. Il va diriger la racaille, enfin il va trouver dans ce quartier de l'époque à Soho, qui est un quartier à l'époque peuplé de prostituées, de jazzmen, de mafieux, etc. Et quand un corps d'une femme est retrouvé au-dessus du club, évidemment les inspecteurs de la criminelle vont vouloir classer l'affaire. Malheureusement, il va en avoir d'autres et ils vont se retrouver à être obligés de collaborer avec plusieurs unités pour rechercher ce tueur qui est à la fois pervers et insaisissable. Et ça se couvre, ça s'étend sur plusieurs années, et donc on va arriver carrément pendant le Blitz en Angleterre et même après-guerre, puisque le meurtrier est surnommé le brigadier. Voilà, autre livre que je lirai, Terrasse à Rome, et tu as compris mon mot, voilà, merci, de Pascal Guignard. Alors, je ne peux absolument rien dire à part que. Il y a un morceau du livre sur la quatrième de couverture, c'est le résumé du livre, alors je vais vous lire. Il y a un âge où l'on ne raconte plus la vie, mais le temps. On cesse de vouloir, de voir la vie vivre. On voit le temps qui est en train de dévorer la vie toute crue. Alors le cœur se serre, on se tient à des morceaux de bois pour voir encore un peu le spectacle qui sienne d'un autre bout à l'autre du monde pour ne pas y tomber. Voilà, ça c'est fait, ça va bien nous plomber le petit moral d'avril, super. Ensuite, je vais lire Les Loups de Babylone. Alors ça, j'ai un pote qui n'a pas du tout aimé, et lui, quand il aime, pas, j'aime. Alors, du coup, il me l'a recommandé. C'est de Anne Persin. Alors, on est avec une gendarme qui est mutée à Millau. Alors, je comprends pourquoi il me l'a balancé, c'est l'Aveyron. Deuxième département cher à mon cœur. Avec la Dordogne, bien sûr, toujours en tête. Elle est chargée d'enquêter sur la disparition d'une jeune militante écologique radicale. Et au même moment, il y a un adolescent qui va subir un harcèlement au collège du fait de son appartenance à une certaine communauté alternative qui est logée au cœur des Causses. Tout ça, l'enquête sur l'écolo décédé mène... l'enquêtrice, la gendarme, a allé au sein de cette bergerie, comme il l'appelle, où plusieurs destins sont entrecroisés. Le titre, c'est Les Loups de Babylone. Mais qui sont ces loups qui menacent cette communauté de la bergerie, donc les brebis. Voilà. Autre livre, et on reste dans l'Aveyron, avec Mademoiselle Laguiole de Daniel Croze. Écoutez, je pense qu'avoir parlé de Daniel Croze depuis des années sur mes émissions, c'est un auteur aveyronnais que j'adore. Il mêle histoire de son département, de sa région, avec vraiment des belles histoires, avec des beaux personnages, avec une très belle écriture. Là, c'est l'histoire d'une femme qui est passionnée, qui va se retrouver dans le monde de la coutellerie, qui à l'époque, quand elle a commencé, était dominée par les hommes. Voilà, on ne lance pas plus. Ah bah oui, vu le titre, vous vous doutez bien, coutellerie, voilà, c'est super. Et donc, dernier de la clique qui s'appelle Bélis Bast. Bélibast de Henri Gougeot. Je ne me rappelle plus, j'aurais dû noter, je suis un peu nounouille. Tu veux pas regarder Gougeot, je crois. Ouais, Gougeot. Alors, on est en fait à l'époque des Cathares. On est avec une riche famille qui soutient ces derniers parfaits, propagateurs clandestins de l'hérésie de Qatar. Et un jour d'automne, le fameux Guillaume, donc de cette famille, est obligé de tuer un berger qui menaçait de le dénoncer à l'Inquisition. Mauvaise période, hein. Et comme il est proscrit, Guillaume, suite à ce meurtre, il va n'avoir que d'autre choix que de rejoindre à contre-cœur ces errants mystiques. Et comment mener cette vie lorsqu'on n'a pas du tout la foi avec ceux, on ne partage pas du tout ce qu'ils disent. Ah bah super. Voilà, quelqu'un m'a dit que c'était magnifique, je ne doute pas. Ah bah vu le résumé, je ne doute pas. Voilà. Donc ça c'est les livres que je vais lire en avril. Donc écoutez, peut-être que ça vous intéresse, peut-être qu'on avait voulu. Qui c'est qui l'a lu, certains ? Peut-être. Écoutez, d'ici là, profitez de votre lundi de Pâques. C'est bientôt l'heure du déjeuner. Je pense qu'il y a soit des restes, soit vous avez encore recommencé à cuisiner. Puis vous avez du courage. Hein. Nous, on bouffe les restes, hein, je vous le dis tout de suite. Oh, il y a des restes, hein, de toute façon. Et on va partir à la chasse au dernier nœud neuf, hein, parce qu'il va falloir les retrouver, histoire que au moins notre chat d'amour ne le trouve pas, parce que là c'est mal parti, on serait parti au vétérinaire dans la seconde qui suit. C'est du poison, hein, pour les animaux, le chocolat. Donc écoutez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Que vous dire de plus ? Rien, à part que nous, sur Liberté FM, on s'occupe de vos petites oreilles et vous vous occupez de vous, de vos proches et de ceux que vous aimez. Nous, on se donne rendez-vous le dernier lundi du mois pour le ciné, séries, documentaires, etc., etc. D'ici là, passez un bon mois d'avril. Avril, ne te découvre pas d'un fil. Ah bah non. Écoutez, profitez. Et puis le mois de mai va bientôt arriver, les beaux jours arrivent et en plus il y a pas mal de jours fériés au moins. Ah bah il y a des week-ends de 3 jours, je te raconte même pas. Oh là. Ah écoutez, on se motive comme on peut, hein. Voilà, allez, je vous quitte avec mon choix. Parce que si vous aviez vu le choix de l'autre, Seigneur. Alors, Étienne Dao, week-end à Rome. Bah oui, terrasse à Rome, week-end à Rome. Moi ça m'est venu tout de suite, hein. Bah lui ça lui a même pas effleuré, voilà. Il en était à chercher autre chose. Ah non, je vous dis pas ce qu'il avait trouvé, parce que... Seigneur. Ah bah, c'était du Vianney, alors moi, je peux pas... Enfin, ceux qui aiment Vianney, je comprends, hein. Attention, tout le monde est libre de ses goûts, de ses choix et de ses oreilles musicales. Mais moi, je peux pas. Non, arrêtez. Ça me fait mal à mes oreilles. Week-end à Rome. Et là, il est en train de me dire, moi, Étienne Dao, ça me fait mal à l'oreille. On ne critique pas le bel Étienne. Plus il vieillit, plus il est beau. Ah, ce garçon, c'est un bonheur à regarder. Ah, Étienne Dao. Oui, cadavre. La fille qui soupire. Oh là là. Vous la sentez, la fangirl ? Bah, écoutez, je suis fan d'Étienne depuis 81 quand même. Hein, donc, écoutez, moi, je ne m'en lasse jamais d'Étienne Dao. Jamais. Ah, je partirais bien à week-end à Rome avec lui.
Donner la peine car